Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Vous avez été un certain nombre à demander à Franck Ferrand une émission d'hommage au dessinateur de Charlie Hebdo, disparu si tragiquement la semaine dernière. Cette émission, la voici. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Avant tout, j'aimerais présenter des excuses à nos plus fidèles auditeurs qui, mercredi et vendredi dernier, ont donc été privés de notre rendez-vous. Je pense qu'on aura compris que nous ayons fait passer évidemment l'information avant tout. Il en a toujours été ainsi sur Europe 1, et nous aurons l'occasion de le dire et de le redire en cette période de 60e anniversaire de la station. L'hommage d'aujourd'hui aurait pu prendre plusieurs formes. J'aurais pu vous raconter l'histoire des caricaturistes de presse. Cela dit, on y viendra assez largement quand même tout à l'heure. J'aurais pu vous raconter l'histoire nettement plus sombre des attentats politiques ou encore celle du radicalisme islamique. Il m'a paru plus pertinent, et l'immense succès des marches d'hier me conforte dans cette idée, plus pertinent de revenir au-delà des combats pour la liberté d'expression sur ce qui constitue un des apports spécifiques de la France à l'histoire de la culture universelle. Je veux parler de la libre pensée. Qu'est-ce que c'est que cette libre pensée? En qui s'est-elle incarnée à travers les décennies? Quels en sont les héritiers? Voici quelques-unes des questions que je vais poser tout à l'heure à mon invité Marc Menant, lui-même libre penseur et auteur tout récemment de « La laïcité dévoilée ». Le père spirituel de cette école de pensée s'appelle évidemment Voltaire. Eh bien, tout seigneur, tout honneur, permettez-moi de commencer par lui aujourd'hui.
Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Ludivine sur l'origine du drapeau blanc.
Le drapeau blanc, symbole universel des demandes de paix.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Ferrand.
Je suis Charlie, indique depuis quelques jours des millions d'affiches, de badges, de drapeaux et les unes de magazines et de journaux du monde entier. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être Charlie? Qu'est-ce qui se cache, d'un point de vue historique, derrière ces trois mots, au-delà, évidemment, de l'empathie et de l'identification tout à fait naturelle? Bonjour Marc Menant.
Bonjour Franck.
Loin de moi l'intention de faire entendre une note discordante dans le grand concert de fraternité offert hier par près de 4 millions de marcheurs à travers la France. C'était un peu, comme l'a dit François de Closet sur notre antenne tout à l'heure, la French Pride, et le monde entier ou presque entier s'est mis au diapason. Mais si aujourd'hui nous consacrons cette émission à la libre pensée, c'est parce que l'immense démonstration pacifique d'hier, malgré toute sa beauté, malgré toute son utilité, sans doute ne suffit pas. Certains principes, qui sont des principes chèrement, très chèrement acquis, doivent être défendus pied à pied, jour après jour, et méfions-nous, me semble-t-il, de l'angélisme ou des effets aveuglants d'une trop grande, d'un trop grand enthousiasme dans le feu de l'action. Cette émission est une émission d'histoire, alors il va d'abord y être question du passé, à commencer par le passé même de Charlie Hebdo. Marc, depuis quelques jours, on a beaucoup raconté pourquoi ce titre s'appelait Charlie Hebdo, mais à mon avis, on l'a incomplètement raconté. Au départ, c'était Harakiri Hebdo, c'est ça l'idée ?
Harakiri Hebdo qui naît en 1969. Et il est l'héritier, on verra peut-être plus en détail tout à l'heure, mais d'Harakiri mensuel. Et là, on est dans ce désir d'une jeunesse qui est portée par Cavana, qui est porté par celui que l'on appellera le professeur Choron, mais qui au départ a pour nom Georges Bernier. Et comme l'officine dans laquelle ils vont créer leur journal se trouve rue Choron, il devient donc le professeur Choron. Il y a à ses côtés Rézer, il y a Gébé, il y a Delfel de Thon. Et bon, leur principe, c'est de tout tourner en dérision, de montrer qu'en réalité, la prospérité de l'esprit n'existe que s'il y a le rire parfois le plus gras. Mais ça ne suffit pas. Et c'est pour ça qu'ils vont créer Harakiri Hebdo en le greffant plus sur l'actualité, pour essayer de faire émerger...
Il y a une dimension presque éditoriale dans
Harakiri
Hebdo.
Voilà, c'est ça. Voilà, c'est d'essayer de décrypter dans l'actualité ce qui est matière à nourrir ce désir de l'homme d'échapper à tous les dogmes. Et comme tout libre penseur, ils sont avant tout, non pas islamophobes, comme j'entendais tout à l'heure, etc. Il avait raison, ils avaient raison, les invités de Wendy. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout contre une religion, on est anticlérical. Ça ne veut pas dire qu'on est contre la croyance. On est contre les religions qui ont l'emprise sur les esprits. Revenons.
En tout cas, contre l'institution religieuse.
Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça. C'est ce que je dis. Hein. Oui. Donc, la religion.
Mais je traduis pour ne choquer personne.
Moi, je vais peut-être choquer, mais je suis libre penseur. C'est mon droit.
C'est le principe de la libre pensée, d'ailleurs. C'est de pouvoir débattre en respectant l'autre et en allant très loin parfois dans les argumentations, mais sans intention de choquer, forcément.
Oui,
hein, c'est ça.
Et puis le rire. Voilà. Il se fait toujours aux dépens de quelqu'un.
Alors, donc pourquoi est-ce que Charlie Hebdo, pourquoi est-ce que Harakiri Hebdo devient Charlie Hebdo en 70?
Charlie Hebdo naît de la censure, de l'interdiction du Harakiri Hebdo par le ministre de l'Intérieur Marcellin après cette une qui avait fait scandale, balle tragique à Colombey, un mort. Alors quand on entend ça comme ça, si on ne le resitue pas dans l'histoire, ça ne veut rien dire. Il se trouve que 10 jours avant, dans une petite commune à quelques kilomètres d'Annecy, un bal a lieu dans un dancing.
Une espèce de bal populaire comme il y en a partout.
Enfin, dans un dancing. Mmh. Malheureusement, les consignes de sécurité avaient été mal appliquées. Et donc, le drame, à 1h du matin, l'embrasement, les gens prisonniers, les issues de secours sont inaccessibles. Il y a plus de 125 morts. Imaginez l'émotion, c'est pratiquement la même qu'aujourd'hui. Ce qui montre qu'au-delà d'une révolte, ce qui touche souvent les âmes dans la spontanéité...
C'est la mort des gens, bien sûr.
C'est la mort, c'est l'horreur, c'est ce que l'on veut fuir. Et puis on est en empathie avec ceux qui sont touchés. Et c'est ce qui, d'une certaine façon, a propulsé nombre de gens hier dans les rues. Et donc, derrière cela, le bal tragique à Colombey, c'est de montrer qu'un homme valait 125 morts et que cet homme idolâtré depuis la résistance, eh bien, il fallait avoir le courage de le taquiner jusqu'à la tombe.
Oui, et entre nous soit dit, moi je n'arrive pas à le trouver tellement scandaleux ce titre-là. Mais il a donné naissance à Charlie du nom même de Charles de Gaulle, bien sûr.
On a repris Charlie pour ça, bien évidemment, c'est le clin d'œil. Et Charles de Gaulle, qui était quand même le porteur de la liberté contre le nazisme. Et ça aussi, c'est intéressant.
Alors, avant Charlie, nous allons parler du grand frère, n'est-ce pas? Déjà bien contesté sur les réseaux sociaux, si j'en crois les messages que toute l'équipe d'Au cœur de l'Histoire m'a fait parvenir. Et vous allez voir que le personnage d'emblée fait débat. Nous allons parler du grand, de l'indépassable Voltaire.
La chanson de l'Oiseleur, extrait de la flûte enchantée de Mozart. Revenons avec vous, Franck Ferrand, libre penseur et notamment à Voltaire.
D'ailleurs, puisqu'on est sur la flûte enchantée de Mozart, il faudra qu'on dise un mot, évidemment, de la franc-maçonnerie tout à l'heure, qui s'inscrit dans ce mouvement-là. Alors, qui est Voltaire? Je veux pas peut-être, mais quand même, je crois que c'est pas mal de rappeler un peu d'où il vient, qui il est, ce Voltaire, fils d'avocat, n'est-ce pas, de bonne famille, François-Marie Arouet, de son vrai nom, bien entendu. Il était né en 1694 à Paris, donc il naît au moment du déclin du règne de Louis XIV, mais quand même presque 20 ans avant la mort de Louis XIV. Au moment où le grand roi meurt, Voltaire a déjà presque 20 ans. Hein. Il faut avoir ça à l'esprit parce que ça permet de comprendre un certain nombre des engagements et des prises de position qui seront les siennes jusque loin dans le XVIIIe siècle, parce qu'il aura eu la chance ou l'avantage ou parfois peut-être l'inconvénient de vivre très vieux et donc de pouvoir constater autour de lui le monde changer et peut-être parfois changer pour s'adapter un peu aux idées qu'il avait émises et qu'il a émises très tôt, parce que c'est un gamin brillant, précoce, il fait de très grandes études à Louis le Grand. Il y a un ami de la famille, l'abbé de Châteauneuf, qui va l'introduire dans un cénacle particulièrement essentiel pour la suite de sa carrière et de sa vie et de ses prises de position, puisqu'on est là dans un milieu de libertins, disons.
Et quelque au plein Ninon de l'Enclos.
Et la grande vieille Ninon de l'Enclos qui est encore elle aussi de ce monde à ce moment-là. Évidemment, tout ça va influer sur les positions de Voltaire, qui fait aussi des voyages. On le retrouve chez l'ambassadeur de France en Hollande. Alors, en fait, pour tout vous dire, il a surtout l'idée de trousser le jupon à l'époque, ce qui fait qu'il va être renvoyé gentiment. Il se retrouve à Paris. Il est d'emblée l'homme qui va faire des vers caustiques. On pourrait dire, à l'époque il n'y a pas de caricature de presse, mais les petits épigrammes de Monsieur Voltaire, ou de Voltaire comme il se fait appeler, puisqu'il a, c'est un anagramme de son nom à Rouen, hein, ces épigrammes sont bien souvent caustiques, méchantes, mais on ne fait jamais d'humour sans nuire à quelqu'un d'une manière ou d'une autre, et évidemment ça devient tellement pénible qu'on va l'embastiller. Alors il est embastillé une première fois, il faut bien noter les dates de sa réclusion, de mai 1717 à avril 1718, c'est-à-dire qu'on est après la mort de Louis XIV, sous la régence de Philippe d'Orléans, que l'on imagine toujours tellement plus ouvert au libertinage et à d'autres relâchements. Eh bien, en l'occurrence, sous la régence, on envoyait encore les gens à la Bastille. Il en profite pour écrire Édipe, sa première grande tragédie, car à ses yeux, de son point de vue, Voltaire se veut avant tout tragédien, dramaturge, auteur de théâtre. Alors le voilà sorti, et là, il a une altercation avec un personnage très important, le chevalier de Rohan. Alors il y a trois versions de cette altercation. Certains disent que Voltaire lui aurait dit « Mais vous, monsieur, vous descendez, moi je monte ». D'autres disent « Monsieur, vous finissez votre nom quand moi je commence le mien ». Il semblerait plus exactement qu'il ait dit « Je porte mon nom, monsieur, alors que vous êtes écrasé par le vôtre », ce qui me paraît beaucoup plus dans l'esprit de l'époque d'ailleurs et dans celui de Voltaire. Toujours est-il que ça lui vaut un nouveau séjour à la Bastille, et il n'est libéré que la Bastille. On y était envoyé sur lettre de cachet, hein, sur décision autoritaire du roi officiellement, mais là en l'occurrence c'était un petit garçon le roi, donc c'était le régent qui prenait la décision à sa place, et il est embastillé avec la possibilité de ne sortir qu'à condition de s'expatrier. Et voilà pourquoi, et voilà comment il se retrouve en Angleterre. Et ça, c'est la grande révélation de sa vie. Parce qu'en Angleterre, j'allais dire la presse est libre, c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas, il y a une liberté d'expression, il y a un goût du débat, il y a une tolérance religieuse qui sont tout à fait inédites en France, bien entendu, et ça fascine complètement Voltaire qui, dans ses lettres anglaises, va se faire désormais l'apologiste de cette nouvelle forme de pensée qu'il incarne lui-même et qu'il va pousser beaucoup plus loin que les exemples qu'il a pu en trouver en Angleterre, et ça lui vaut là encore beaucoup de problèmes. Son poème burlesque « La Pucelle », par exemple, fait qu'il va encore une fois frôler la Bastille. Il se réfugie en Champagne, hein, au château de Cirey. Nous avons eu l'occasion d'en parler à l'occasion d'une émission, il n'y a pas très longtemps, là, sur Madame du Châtelet, vous vous rappelez. Alors c'était fabuleux, l'ambiance à Cirey, avec tous ces gens qui faisaient des expériences scientifiques, qui faisaient des travaux de philosophie, de recherche politique, etc. C'était un véritable bouillon de culture, c'est assez extraordinaire. Et puis... Et ça, c'est assez inattendu. En 1744, avec l'appui de son ami de jeunesse, le ministre d'Argenson, et d'Argenson va jouer un rôle important dans sa vie, le voilà qui arrive à Versailles. C'était son but. Et ça, c'est tout le paradoxe de la personnalité de Voltaire. C'est à la fois un homme qui se veut libre, qui se veut parfaitement maître d'une parole que personne ne peut gouverner à sa place, et qui en même temps essaie de flatter les puissants, fait des affaires et en l'occurrence veut plaire au roi, dont il devient officiellement l'historiographe. Et mieux que ça, à l'été 1745, on va le voir devenir en quelque sorte le précepteur, si je puis dire, de la marquise de Pompadour, toute nouvelle marquise de Pompadour, qu'il est chargé de dégrossir, à laquelle il doit donner le ton et l'air de la cour afin qu'elle devienne plus présentable en quelque sorte. Ça va être le défi en quelque sorte de Voltaire, qui dans la foulée est élu à l'Académie française, etc. devient, sinon l'égal, du moins le correspondant des princes et des rois, et on va le voir effectuer pour la deuxième fois de sa vie un grand séjour en Prusse à la cour du roi philosophe Frédéric le Grand.
Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission et nous envoyer vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag SCDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un court instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, aux libres penseurs et à leur père spirituel, Voltaire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Retour avec vous, Franck Ferrand, au libre penseur qu'était Voltaire.
Alors Voltaire, évidemment, si on le présente comme un libre penseur, c'est qu'il avait comme ennemi, l'intolérance. Et quand il disait l'intolérance, c'était bien dans son esprit, et pour l'essentiel en tout cas, l'intolérance religieuse. Vous savez, il avait pris l'habitude de signer un certain nombre des courriers qu'il adressait à des amis ou à des personnes dont il savait qu'elles le comprendraient. Il signait « écrelinf », ce qui voulait dire « écrasons l'infâme ». Et l'infâme, à ses yeux, c'était justement cette espèce de dogmatisme religieux qui lui paraissait du fanatisme, une intolérance, des abus incomparables. Et il va dénoncer ce qu'il considère comme la stupidité de tout cela. Et s'il y a une idée peut-être à retenir aujourd'hui, nous allons voir dans un instant avec Marc Menant ce qu'il faut en penser, c'est peut-être justement cette idée que dans l'esprit de Voltaire, c'est avant tout l'intelligence qui doit l'emporter sur la sottise. C'est ça son idée, c'est ça son esprit, c'est ce qu'il veut faire avant tout. Et d'ailleurs, il y a cette anecdote assez extraordinaire où il est en compagnie d'un certain nombre d'amis, ils sont en train de vivre une bonne vie, etc. Et alors là, tout le monde dit « Oh, mais Dieu, etc. » On remet ouvertement en cause l'existence de Dieu. Et Voltaire leur répond « Attendez, moi ça ne me dérange pas, mais permettez-moi de renvoyer mes valets, parce que je n'ai pas envie demain de me faire trucider quand je vais sortir de chez moi. » Il y a cette idée que la liberté de penser doit être réservée à une forme d'aristocratie chez Voltaire, ce qui ne sera pas du tout le point de vue de Diderot, nous allons le voir, et encore moins évidemment de Jean-Jacques Rousseau qui fonde l'ensemble de sa pensée contre cette idée-là. Mais chez Voltaire, on critique la religion, on dénonce les abus, le fanatisme, l'intolérance, etc. Mais entre gens, si je puis dire, capables de le comprendre. Et pour ce qui est du peuple, eh bien, il peut continuer à croire ce qu'il veut. C'est même plutôt mieux dans l'esprit de Voltaire. Et je précise tout ça parce que ça explique, à mon avis, ça éclaire tout simplement le débat qui opposait, avant que ne commence l'émission, nos auditeurs sur la page Facebook de l'émission, certains défendant Voltaire et d'autres l'accablant. Parce que justement, on ne comprend pas toujours aujourd'hui, on ne remet pas dans son contexte et on ne comprend pas cette particularité de Voltaire. Or, il ne s'est pas contenté de combattre tout cela par des écrits, Voltaire. Il faut bien savoir qu'il a été aussi, il a payé de sa personne, si je puis dire, et qu'au moment de l'affaire Calas, vous voyez, Calas c'est ce pauvre marchand, enfin pauvre, il n'était pas pauvre d'ailleurs, mais ce marchand de Toulouse qui avait été roué vif parce que protestant, il aurait interdit à son fils de se convertir au catholicisme et qu'il l'aurait tué pour cette circonstance, ce qui était totalement faux en l'occurrence, mais le pauvre a été martyrisé. Ensuite, il y a eu l'affaire Sirvin dans le même état d'esprit. Et puis, j'allais dire surtout parce que c'est devenu un véritable emblème de la libre pensée, la question, l'affaire du chevalier de la Barre, ce pauvre gamin qui a eu la langue percée, qui a été torturé et exécuté, décapité, simplement parce qu'il aurait refusé de saluer le Saint-Sacrement à Abbeville. Vous voyez, entre parenthèses, où on en était arrivé dans le délire et dans l'extraordinaire respect d'un certain nombre de pratiques, dont d'ailleurs la plupart de la population avait même oublié le sens. D'ailleurs, à ce propos, quand Voltaire voyait passer lui-même le Saint-Sacrement, il se découvrait, n'est-ce pas? On était bien avant l'affaire du chevalier de la Barre, il ne le faisait pas par peur, il le faisait par une sorte de convenance. Alors un de ses amis, un jour, lui dit « Mais enfin quoi? Vous êtes donc réconcilié avec Dieu ?» Et il dit « Non, nous nous saluons, mais nous ne nous parlons pas. » N'oublions pas qu'on est dans un siècle qui est très irrévérencieux, n'est-ce pas? Voltaire va constamment travailler à liquider les idées reçues d'une certaine manière. Un grand vicaire avait fait un mandement sur de prétendus miracles attribués à un charlatan qui devait être peu après condamné par l'Église. Et il a adressé un exemplaire à Voltaire, qui en échange lui envoie sa tragédie de Zahir, parce qu'il était quand même très content de lui et jamais fâché avec lui-même, Voltaire. Donc il envoyait volontiers ses écrits et il accompagne l'envoi de ses 4 vers. Vous m'envoyez un mandement, recevez une tragédie, afin que mutuellement nous nous donnions la comédie. Voyez jusqu'où pouvait aller cette espèce d'esprit de persiflage. Et quand je dis jusqu'où, lui qui était pourtant un malade imaginaire, lui qui craignait toujours la maladie d'abord et puis la mort. Rappelez-vous au moment où il va se réfugier à la frontière helvétique, quand il est dans sa maison de Ferney, la vie impossible qu'il menait à sa nièce, Madame Denis, cette espèce d'atrabilaire qui passait son temps à se plaindre, à gémir, à se croire à l'article de la mort, etc. Voilà qu'un jour il est très malade et un prêtre s'approche de son chevet. « Monsieur de Voltaire, il est temps, confessez-vous, lui dit-on. Tremblez de perdre le seul moment que la grâce divine vous laisse encore. » Alors Voltaire se retourne, mais Monsieur l'abbé, d'abord de la part de qui venez-vous ? Alors le curé est un peu décontenancé. De la part de qui ? De la part de Dieu, monsieur de Voltaire, de la part de Dieu, enfin. Voyons vos lettres de créance, lui dit Voltaire. Vous voyez que, évidemment, ces mots-là se redisaient, ces mots-là se répandaient à travers le royaume, à travers l'Europe entière, et peu à peu, c'est le prestige, ce sont les assises mêmes de la religion qui d'ailleurs se trouvaient bousculées. Quand je dis de la religion, je devrais d'ailleurs, pour être plus exact, parler des religions, car le phénomène en soi irritait Voltaire. Et au-delà de la religion catholique, qui certes c'était un monopole dans la France de l'Ancien Régime ou quasiment. Mais en tout cas, il y a chez Voltaire la volonté de lutter contre tous les fanatismes religieux et pas seulement contre le fanatisme chrétien. Un jour, il joue un jeu de société, vous savez, qu'on appelait le piquet. Il est à Ferney, il était avec une dame très pieuse, très dévote, et voilà qu'un violent orage éclate. Alors la dame se signe plusieurs fois, vous savez, elle fait son signe de croix, comme les gens de cette époque quand il y avait de la foudre. Et Voltaire lui dit « Vous craignez donc la foudre, ma belle amie ?» Et la dame lui dit « C'est que votre voisinage, vous avez si souvent offensé Dieu. C'est vrai que se trouver à côté de Voltaire, dans certaines circonstances, c'était peut-être risqué au moins, le foudre divin. »
Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1.
Ce sont les libres penseurs qui sont au cœur de l'histoire cet après-midi. Et vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité Marc Menant, journaliste et écrivain. Nous avons également beaucoup de réactions de nos auditeurs.
Oui, alors
Franck,
il y en avait avant l'émission, il y en a même maintenant pendant l'émission. Anne-Marie nous dit « Quand je parle du siècle des Lumières ou de Voltaire, j'ai l'air d'un dinosaure qui refuse le monde moderne. Merci de me réhabiliter. » Mais avec plaisir, Anne-Marie, nous sommes deux comme ça. Et puis Joël nous dit « En voyant le rassemblement d'hier, j'ai justement pensé à Voltaire. » Entre parenthèses, il y avait des affiches de Voltaire hier, et une grande partie de ceux qui participaient à la manifestation parisienne arrivaient par le boulevard Voltaire et repartaient par le boulevard Diderot, ce qui quand même est en soi tout un symbole, surtout lorsqu'on sait qu'au passage ils avaient fait entre deux le tour de la place de la Nation et qu'ils venaient de la République et qu'ils passaient à la Bastille, enfin
qu'ils
tout ça.
Croisé le Drurelin.
Et le Drurelin au passage. Donc tout ça était d'un symbolisme extraordinaire. Et donc, nous dit Joël, en voyant ce rassemblement, j'ai pensé à Voltaire qui écrivait à la suite de sa prière à Dieu, je cite, « Il y a donc de l'humanité et de la justice chez les hommes. Je sème un grain qui pourra un jour produire une moisson. » Eh bien, nous dit Joël, hier, on a assisté à la moisson. Est-ce que tous ces gens qui se réunissent au nom de la liberté d'expression, Marc Menant, sont d'une certaine manière le grain qu'a fait germer Voltaire ?
Ça serait trop beau. Ça voudrait dire qu'à la limite, on n'aurait pas besoin de faire cette émission.
N'est-ce pas ?
Que derrière, nous sommes tous Charlie, tout le monde a compris, tout le monde est dans l'adhésion, que ce n'est pas l'émotion qui a propulsé les uns et les autres dans la rue, et parfois avec une interprétation un peu personnelle, en se disant « cette horreur pourrait nous arriver ». Non, il faut intellectualiser, replacer dans le contexte. Vous avez évoqué Voltaire, on a oublié de citer son frère, qui était un ecclésiastique. Ecclésiastique, en l'occurrence, extrêmement intransigeant, qui n'avait aucune douceur et qui reflétait l'esprit du temps. N'oublions pas que le délit d'impiété existait. Vous pouviez aller en prison parce qu'on estimait que vous n'étiez plus assez pieux, que vous n'aviez pas assisté à la messe. Il y avait le délit de blasphème. Et ça, c'est intéressant dans notre contexte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a oublié ce qui a été à l'origine de ce drame. C'était ce que certains ont appelé le blasphème. Mais pour blasphémer, il faut déjà être dans la croyance, il faut déjà être dans une adhésion d'une foi, et foi certie par une religion. Moi qui suis libre penseur, j'admets que d'autres aient effectivement cette connivence avec l'indicible. Mais en aucun cas, je dois connaître les règles et j'ai le droit de m'en amuser, comme on a le droit de s'amuser de moi et de me dire qu'un jour, je terminerai parmi les vers de terre, que je ne serai jamais autre chose qu'une chair en décomposition. Mon âme ne sera pas sauvée, elle n'est déjà putride de mon vivant. Vous voyez, c'est très important parce
que... Vous êtes bien sévère avec vous-même.
Mais faut accepter et qu'on rit de moi. Comme moi, j'ai le droit de rire des autres. Si on n'a pas ça dans la tête, la manifestation d'hier n'a servi pour rien, les héros ne sont plus ce que l'on croit.
C'est la notion de tolérance au sens fort du mot et non pas au sens un peu dévoyé qu'on a pu lui donner dans le cours du XXe siècle.
Voilà,
à ce propos, on a beaucoup cité cette phrase qu'on attribue parfois à tort à Voltaire en disant « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire ». Ça aussi, ça a fait débat tout à l'heure sur les réseaux, dans la perspective de l'émission. Alors cette phrase, en fait, elle a été écrite par un biographe de Voltaire, qui était une femme, une Britannique, Evelyn Beatrice Hall, et qui avait construit cette phrase pour résumer le point de vue de Voltaire. Donc c'est pas lui qui l'a prononcé, mais on a presque envie de dire qu'il aurait pu la prononcer, car c'est ainsi, notamment dans le cours des années 1760, quand il se met à devenir le défenseur de la veuve et de l'orphelin, c'est ainsi qu'il conçoit son rôle, en fait.
Et Voltaire, il faut préciser donc ce rejet de ce qui est cet ordre établi qui empêche à l'homme d'entrer dans la raison. N'oubliez pas que l'Église interdisait que l'on autopsie les corps, que l'on ait donc des réflexions sur la physiologie. Elle interdisait de visiter le ciel, qui était le domaine de Dieu. Et c'est parce qu'il y a eu cet esprit qui est reflété par Voltaire, mais par tous les libres penseurs, qu'aujourd'hui on est dans ce règne qui nous permet de réfléchir sur nous-mêmes. Et n'oublions pas aussi que tous signes distinctifs, signes religieux. Et quand il les combattait à l'époque, c'était pas spécialement les signes islamiques, ou disons de l'islam. Il y a cette phrase formidable. Il dit « Pourquoi se distinguer ainsi des autres citoyens ?» Et là, il fait allusion aux flagellants et autres tendances religieuses un peu trop virulentes à son goût. « Cela même est une insulte à la nation. Ce serait un beau spectacle que de l'Europe en capuchon, en masque. Pense-t-on de bonne foi que Dieu préfère cet accoutrement injuste au corps ?» Il y a bien plus. Cet habit est un uniforme de controversiste qui avertit les adversaires de prendre les armes. Il peut exciter une espèce de guerre civile dans les esprits.
C'est-à-dire que Voltaire, qui lui-même est déiste, c'est-à-dire qu'il croit l'existence d'une réalité supérieure, de Dieu, disons. Voltaire n'admet pas. Ce qu'il combat, ce n'est pas la foi, ce n'est pas la croyance. Ce qu'il combat, c'est le fait qu'une institution veuille imposer sa présence, voire son pouvoir, par l'intermédiaire d'un certain nombre d'éléments visibles.
C'est le régentement de l'esprit par le dogme religieux. Mais c'est une évidence, puisqu'on n'avait pas le droit à la science. On n'avait droit à rien. Ce délit d'impiété, ce délit de blasphème. Et que de risques il prenait, lui et les autres, pour ses desseins, parfois simplement grivois, avoir le droit à, je dirais, à ce souffle. Hier, c'est peut-être ça qu'il aurait fallu sentir, c'est le souffle de la liberté, le souffle libertaire. Et c'est ce que veut dire le mot laïcité. Et lorsque l'on parle de tolérance, lorsque Voltaire écrit ce traité de la tolérance, c'est pas chacun pense ce qu'il veut, et puis j'ai ma croyance, je peux l'affirmer, c'est exactement le contraire. À l'époque, il y a cette mise sous carcan de l'Église, et puis du groupe qui naît en opposition, mais qui a de même tendance, à savoir les protestants. Et lui, il dit que les croyants fassent l'effort de restreindre cet état d'esprit qu'ils imposent aux autres. Admettez, vous qui croyez, que d'autres ne soient pas dans cette foi. Respectez que je dénie l'existence de Dieu. Et quand il dit ça, lui-même est resté toute sa vie, contrairement à Diderot, rivé à cette idée qu'il était impossible que l'univers tel qu'il existe ne soit pas dû à un grand créateur, à un grand Olergé, comme on dit chez les francs-maçons.
Oui, bien sûr, et d'une façon plus générale, il n'y a pas de volonté de stigmatiser des peuples, il faut le dire, parce que là encore, nous avons reçu pas mal de messages, certains disent oui, mais Voltaire était un antisémite, etc. Ce ne sont pas les juifs en tant que tels qu'il a parfois visé, et certes violemment visé, ce sont encore une fois les manifestations d'une religion, comme dans sa pièce Mahomet d'ailleurs, contre les musulmans.
Et parce que toute religion, d'abord, est prosélyte, à part la religion juive. Mais sinon, on cherche à gagner les âmes, on cherche à imposer aux esprits une façon d'être. Et c'était viscéral, c'était insupportable pour lui. Et heureusement que ces gens-là sont arrivés. Aujourd'hui, nous serions tous obligés de vivre à genoux. Et il y a donc, chez Voltaire, une sorte d'encensement d'idéal humain. C'est ce qui conduira à la République, c'est ce qui conduira à la laïcité. Et c'est ce qui doit conduire tout à chacun se positionner d'abord comme un citoyen, et après seulement on entre dans la foi. On entre d'autant plus dans la foi qu'on a germé son libre arbitre et que l'on est capable de défier sa propre croyance.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu, car tout ce qu'il avait
multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre, et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi, avec un soupçon de réserve toutefois. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
Un extrait du titre de Georges Brassens, Mourir pour des idées. Ce sont les libres penseurs qui sont au cœur de l'histoire cet après-midi. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité Marc Menant, journaliste et écrivain, auteur du pamphlet La laïcité dévoilée, accessible sur Internet.
Alors Marc, il faut que nous disions un mot de la Révolution française, qui s'est voulu d'une certaine manière l'enfant des idées, non seulement de Voltaire, mais aussi de Rousseau, bien sûr, et de Diderot, qu'on a tendance généralement à oublier.
Bien évidemment, et il y a un personnage, ô combien marginal, mais dans le cadre des libres penseurs, il nous faut le citer, il s'appelait Maréchal, Sylvain de son prénom. Alors c'est un maréchal moins connu qu'un autre qui a imprégné l'histoire quelques années plus tard, mais qui a démontré, lui, cet esprit d'impertinence. Il se voulait effectivement l'héritier de Voltaire, de Diderot, d'Helvétius, et ce personnage, donc, a écrit, et il a réfuté cette idée de Dieu. Il a eu des écrits extrêmement provocateurs. Il a même fait l'almanach des saints, et à la place des saints, il prenait des figures emblématiques d'êtres humains, et il les glissait en lieu de ces icônes révérées par la religion. Et là, ça a fait un scandale invraisemblable. Et il a été lui aussi incarcéré, menacé. Il faut constamment rappeler, d'ailleurs, qu'il ne peut pas y avoir de libre pensée qui ne soit anticléricale. Il ne peut pas y avoir de libre pensée qui ne soit contre le sabre et donc aussi contre le goupillon. C'est-à-dire que ce sont les ordres établis.
Le sabre et le goupillon, c'est-à-dire l'État et l'Église.
Et l'Église, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est tout ce qui fait qu'à un moment donné, l'homme se sent comme rivé à des règles que l'on lui impose sans la moindre nuance, qui le menace à tout instant de la geôle. Il faut aller contre ça. Et il faut savoir rire de tout ça. Parce que ce qui est formidable chez les libres penseurs et chez les autres, c'est ce qui fait la différence, on pourrait dire, entre un libre penseur et celui qui pourrait tomber dans le fanatisme, donc qui irait jusqu'au bout. Il y en a un qui ne rit plus du tout, qui est dans une force destructrice.
Oui, parce qu'il peut y avoir un fanatisme de la libre pensée d'une certaine manière. Il faut le dire aussi.
Oui, bien sûr.
C'est un fanatisme qui n'est pas plus sympathique que les autres.
Tout fanatisme est une horreur en soi, c'est une abomination puisqu'elle se le refuse de réfléchir.
Alors, justement, il y a à cette époque-là des rationalistes, il va y avoir il y a des positivistes bientôt, un tout petit peu plus tard, il y aura des anarchistes, etc. Chacun. Et puis les libertaires dont nous allons plus spécifiquement parler, ce sont des branches différentes d'un même arbre, qui est cet arbre de la libre pensée.
Oui, c'est l'arbre de la prospérité de l'esprit.
Un mot des francs-maçons qui ont eu leur rôle dans la Révolution française et dans ses lendemains, du reste.
Bien évidemment, et qui ont toujours été des questionneurs, en quelque sorte. Il faut savoir que le franc-maçon, alors il y a, oui, on ne va pas entrer dans l'histoire, oui. il y a diverses voies, etc. Mais la base, ils se disent, voilà, il y a un grand architecte. Il a en quelque sorte des connaissances que certains initiés pourront acquérir pour mieux comprendre l'univers, à nous de le décrypter. Et c'est entre élus, et il nous faut, quand je dis élus, c'est parce qu'on va pouvoir s'adouber, que l'on a été capable d'une certaine réflexion, de passer certains tests qui montrent que l'on est dans cette idée d'une réflexion active et capable de remettre en cause beaucoup d'éléments, que l'on pourra participer à ces cercles qui sont très mal vus par la population parce que justement ils sont fermés, d'où l'idée de complot menée par les francs-maçons. Tout ce qui est obligatoirement cercle demandant pour y entrer une sorte de test, il faut montrer patte blanche, on n'y vient pas comme ça. Obligatoirement, ceux qui se sentent exclus estiment qu'ils ont là des pouvoirs énormes et que ce sont ces pouvoirs qui gouvernent le monde aux dépens des plus pauvres, aux dépens des plus démunis. Et c'est ce qui a desservi aussi, on ne va pas entrer dans ce débat-là, mais qu'est-ce qui fait que le juif souvent a cette connotation extrêmement péjorative, les juifs, le complot juif contre le monde. Au départ, ben, c'est la diaspora, c'est le peuple qui essaie de trouver de quoi survivre et qui survit de l'usure. Et l'usure, ben,
l'usure, c'est-à-dire le prêt à intérêt.
Le prêt à intérêt. Et quand on peut pas, quand on peut pas rembourser lorsque la date est terminée, bien évidemment, vous faites valoir vos droits. Et à ce moment-là, vous devenez celui qui est l'oppresseur, le spoliateur du plus pauvre. C'est tout ça qui concourt. Et il faut remettre ces éléments en perspective. Alors, pour ne pas retomber.
Justement, reprenons la perspective et notre chemin de chronologie historique. À l'issue de la Révolution française, avec le consulat et surtout l'Empire, Napoléon, c'est un paradoxe, tout en étant l'enfant de ces idées-là et en essayant d'en sauver la plus grande part, va aussi revenir à une certaine tradition, tradition qui explose littéralement avec le retour au pouvoir des frères de Louis XVI, Louis XVIII et surtout Charles X. Lors de ce qu'on appelle la seconde restauration, il y a une répression de la libre pensée.
Mais une répression inouïe.
Ouais,
mais là, alors là, on est dans la barbarie. Paris, au nom de l'ordre établi.
Hein, oui.
Et on plante au carrefour, à tous les entrecroisements de chemin, des calvaires. C'est pour vous condamner à être dans cette complicité, dans cette dévotion auprès du Seigneur. Vous ne pouvez plus échapper au signe de croix. Il faut vivre à genoux. Et on est dans cette superstition, ce débordement inouï. S'il n'y a pas de récolte assez féconde, s'il y a trop de pluie, s'il n'y a pas assez de soleil, les processions, on est derrière la croix, le curé qui mène le village, et vous n'avez pas intérêt à en être. Hier, les gens étaient dans la rue volontairement. À cette époque-là, il fallait être dans la rue, même si on n'était pas volontaire.
Ça fait penser à la toute première une de Harakiri, d'ailleurs, le crucifix.
Harakiri Hebdo. Car j'insiste là-dessus, il y a d'abord eu Harakiri mensuel, né dans les années 60. Et pour aller plus loin dans le contact avec la quotidienneté, ils ont créé Cavana, Rezer, le professeur Choron, Defel de Ton, GB.
On va y venir dans un instant.
Ils ont créé donc Harakiri Hebdo et cette croix et le Christ de dos. Et on le voit, et la légende, c'est la face cachée du Christ.
Et en plus, ça le fait rire. Voilà Cabu qui chante Charles Trenet. Vous savez qu'il avait une passion Cabu pour Charles.
Un jour le diable fit une java, qu'avait tout l'air d'une mazurka. Passa trois temps, il ne savait pas ce qu'il venait de composer là. Aussitôt la terre entière par cet air fut enchantée. Les dancings au cimetière, tout le monde la chantait. On le dansait à petits pas, et bien souvent aux heures des repas, le diable venait sur sa java, frapper du pied dans les estomacs.
Les petits malheurs ont commencé, car ce refrain de Lucifer venait partout, tout de suite appris, circonvenant bien des esprits. Vers la fin du mois de décembre, un député prit le pouls.
La voix de Cabu et son fils Manu Solo, un extrait de La Java du Diable, titre qui fait partie de l'album Charlie chante Noël, sorti en 2008.
Alors, cette libre pensée, elle va connaître de nouveau des heures de gloire avec les révolutions un petit peu de 1830, mais surtout de 1848, retour de la République au pouvoir et installation éphémère d'un certain nombre de libres penseurs aux manettes de l'État.
Alors ça c'est vrai, mais il faut citer, c'est Jules Simon, Jules Bamy, qui d'ailleurs vont devenir des ministres.
Qui est Jules Simon, en deux mots?
C'est un professeur. Mm-hmm. C'est un professeur de philo. Il a des cours qui sont tellement passionnants que l'on en vient, on se bouscule en auditeur libre. Moi, j'adore cette période quand même, et surtout celle des Lumières, où on se réunissait, non pas pour deviser, pour être dans ces petits échos du quotidien, mais simplement pour s'enchanter l'esprit. Et là, avec la philosophie, avec Platon, ils viennent et ils se grisent de ce professeur qui leur parle donc de cette capacité de l'être humain à être au-delà de tous les régentements. Et ils vont créer, avec Bamy, ils vont créer la première association de libres penseurs. Notons au passage aussi, parce qu'il faut lui rendre hommage, que le premier caricaturiste de l'histoire, de temps en temps il y a encore des images qui nous viennent, c'est Charles Philippon. C'est lui qui avait croqué la tête de Louis-Philippe en poire.
Oui.
Voilà comment, et à l'époque, il faut savoir quand même que le roi est quelqu'un...
Même si ce n'est plus un roi de droit divin,
non,
d'ailleurs,
bien
comme
sûr.
Par hasard, donc on peut se permettre de le caricaturer.
Enfin,
tout de même.
Voilà. Et n'oublions pas non plus que le Figaro naît, lui, en 1826 et que ce journal, je dirais aujourd'hui, qui est inscrit comme étant la référence d'un ordre établi, d'un ordre moral...
Ordre moral est peut-être un peu fort.
Non, mais enfin bon...
D'un certain ordre.
À l'époque, c'était un journal de caricature. C'était un journal qui avait pour référence Beaumarchais.
Oui, bien sûr.
D'où le
Figaro,
d'ailleurs.
Il faut citer Charivari, hein, qui est...
Bien sûr.
On peut dire que...
La silhouette, le corsaire...
L'assiette au beurre, un peu plus tard.
L'assiette au beurre qui sera reprise par Pierre Dac dans les années 50-60. Et ce sont ces journaux d'une force inouïe. Pierre Dac, c'est incroyable. Cet homme qui va aller à Londres à côté du général de Gaulle, qui sera l'une des voix de Radio Londres, un homme de l'impertinence totale. Et il n'y a pas de liberté sans cette capacité à une dérision extrême. Et à part l'appel à la haine, l'appel au meurtre, tout est permis dans le rire. Et c'est là, quelle que soit sa confession, quelle que soit son intime conviction, il faut acquérir. Mais on ne naît pas citoyen. On le devient, on apprend à le devenir.
Oui, ça c'est intéressant. Vous me disiez, nous parlions évidemment de l'impressionnante démonstration pacifique hier de toutes ces marches à travers toute la France. Et vous me disiez, il y avait beaucoup d'enfants notamment. Voilà. Et il faut apprendre à devenir citoyen,
disiez-vous. Exactement. Moi, je trouve que là, on a mis les enfants en otage. Ça va peut-être choquer.
Otage, c'était peut-être un
non,
mot
mais
fort.
C'est pas ça. C'est qu'on ne peut pas demander à des enfants instantanément, à 8 ans, 10 ans, de comprendre ce qu'est la liberté, d'afficher « je suis Charlie », de comprendre des caricatures, c'est quoi une caricature, c'est quoi l'audace.
L'idée des parents est peut-être de les ouvrir à une certaine
oui,
réalité.
Oui, mais contrairement à la révélation qui se fait au détour, comme pour Mauriac, au détour d'un pilier dans une cathédrale, la liberté n'est pas une révélation, c'est quelque chose qui s'acquiert à partir de la réflexion. Et je trouve qu'il est bien que dans les écoles, partout, au contraire aujourd'hui, on parte de ce drame pour faire de la pédagogie, que ceux qui sont les plus obtus, qui ont du mal à comprendre, qui se sentent victimes parce qu'ils ne sont pas bien intégrés, il faut leur instiller cette capacité à la réflexion, leur dire que s'ils campent sur une position trop intransigeante, ils ne sont pas dans l'intelligence. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont bêtes. C'est que pour le moment, leur esprit est bloqué. Et c'est ça qui doit conduire l'esprit démocratique. Ouvrir les uns et les autres, faire germer le libre arbitre.
On est très proche de Proudhon dans ce que vous dites là et d'un certain nombre de...
Alors Proudhon, il a un côté intransigeant. Moi, je préfère Charles Fourier. Charles Fourier, il a créé les phalanstères. C'était un personnage étonnant. Il arrivait de la société idéale. Et dans cette société idéale, qui a été appliqué à Guise par Gaudin, oui, le fabricant
pendant,
de poils.
Pas pendant très longtemps.
Et il y a eu une expérience de phalanstère en tant que tel dans les Yvelines à Condé-sur-Vègue, qui est un tout petit village pas très loin d'Oudan. Et là-bas, donc, on a tenté cette expérience à partir de ces états d'esprit, je dirais, de cette prospérité développée par Charles Fourier, à savoir que l'individu, dans une société productive, doit essayer de trouver sa place en fonction de sa sensibilité, en fonction de ses qualités. Il a inventé la crèche, il a inventé les salles de bain, le confort, mais la responsabilité de l'ensemble, c'est-à-dire que pour les tâches les plus vulgaires, il y avait une sorte de tour de rôle, ce qui rappelle aussi aux uns aux autres qu'au-delà d'une position, il y a des servitudes et c'est que ces servitudes ne doivent pas incomber à quelques-uns seulement.
Je trouve intéressant cette espèce de parallèle et de double évolution entre d'un côté des penseurs, qui d'ailleurs pour certains utopistes sont aussi à l'origine d'un certain nombre de propositions sociales, politiques, etc. Et puis d'un autre, ces journaux, ces journalistes qui développent une certaine un ton caustique qui existait depuis très longtemps en France, presque depuis toujours on pourrait le dire, et qui peu à peu va prendre la forme de la caricature politique, du dessin de presse, de ces espèces de dessins qui résument une situation et qui font rire.
Mais
en
parce
fait,
qu'il y a une nécessité.
Eh oui.
On est dans un pays d'analphabètes. mais là encore, il ne faut pas
se
mentir.
On est en 1850, là.
On est en 1850, mais à part une élite, qui va à l'école? Les enfants sont dans les... Pourquoi on parle aujourd'hui de la grande mortalité infantile? N'oublions pas que dans le monde industriel, dans les campagnes des 5 ans, vous êtes au champ, vous êtes à l'usine, à côtoyer les acides, ça vous infiltre. 7 jours sur 7, il n'y a pas de vacances. Et il n'y a donc pas d'instruction. Ce qui fait que les pauvres ont un esprit en jachère. Alors comment les toucher? Parce que l'intelligence humaine, elle est toujours là, plus ou moins en dormance. Pour la lever, un dessin bien senti, un dessin peut-être extrémiste, mais un dessin qui résume d'un seul trait une situation, voilà ce qui provoque le choc qui conduit à une réflexion minimale.
Magali
la caricature.
Nous envoie une citation de Thomas Jefferson qui disait « Notre liberté dépend de la liberté de la presse et elle ne saurait être limitée sans être perdue ». Certes, je pense que la presse dont parle Jefferson est plus une presse d'opinion que de caricature, entre nous soit dit, mais enfin, pourquoi pas. Et puis, alors en revanche, je suis plus perplexe devant le message de Neymad qui nous dit toujours sur Facebook « Vous présentez Voltaire comme anti-religion et pourtant il a écrit « L'univers m'embarrasse car je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger ». Mais
ça,
c'est précisément ce... Voilà. C'est ce qu'on a essayé, alors là je suis un peu effondré parce que je me dis qu'on a parlé pour rien, mais c'est ce qu'on a essayé de montrer, c'est la différence entre la croyance et ce que Voltaire lui-même pouvait penser d'une divinité et d'un dieu, puisqu'il était déiste, c'est-à-dire qu'il croyait en Dieu. Et puis sa lutte contre les formes extérieures obligatoires de la religion, ce n'est pas la même chose.
C'est ça Franck, d'un côté vous avez la foi. La foi c'est une sorte d'intime conviction. La sensation que le monde et vous-même être en quelque sorte en connivence avec une sorte de toute puissance qui a généré l'univers. Et à côté de ça, il y a les prophètes qui ont été à l'origine de ce qui est une religion, mais souvent d'ailleurs construite à sa façon, en oubliant même les principes de ce qui avait été édicté par les prophètes. Je ne pense pas que les prophètes, quels qu'ils soient, auraient été d'accord avec tout ce qui a été commis en leur nom, toutes les guerres de religion qui germent aujourd'hui encore. N'oublions pas que dans l'islam, les sunnites, les chiites, il y a des pays qui se déchirent. Les guerres civiles, comme en analogie ce qui existait chez nous entre les catholiques et les protestants, détruisent des nations. Ayons l'audace donc de bousculer tout ça, de nous réfugier. Et n'oubliez pas qu'en 1795, la deuxième convention interdisait les signes extérieurs ostentatoires des religions.
Eh bien justement, vous m'amenez à mon ultime conclusion, j'aurais aimé que nous ayons davantage de temps pour parler de la laïcité, qui est le sujet même de votre pamphlet « La laïcité dévoilée » qu'on peut trouver sur Internet. Ce sera l'objet...
MarcMenant.fr,
voilà,
voilà.
Ce sera l'objet,
c'est gratuit.
Ce sera l'objet d'une prochaine émission. Merci beaucoup, Marc Menant, de la passion que vous mettez à défendre cet idéal de liberté.
Dans un court instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Ludivine sur l'origine du drapeau blanc.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Ludivine, qui nous l'a envoyée via le site internet d'Europe 1. Elle aimerait savoir depuis quand brandit-on un drapeau blanc en signe de paix?
Alors ça, c'est très intéressant. Vous savez que le drapeau blanc, autrefois, c'était le drapeau du Royaume de France, hein, bien entendu, depuis la fin du Moyen-Âge. Il avait été choisi blanc pour par référence à la virginité de la Vierge Marie. Et durant la guerre de 100 ans, le drapeau blanc aurait aussi été utilisé par Jeanne d'Arc. Alors c'était un drapeau qui était semé de lys, bien entendu. En 1661, donc au moment de sa prise de pouvoir personnelle, Louis XIV décrète que les vaisseaux de la marine royale arboreront désormais des flammes et des pavillons blancs dépourvus de fleurs de lys et d'autres motifs. Et la marine marchande adopte ce pavillon blanc, c'est-à-dire que désormais le drapeau est sans fleurs de lys, il n'y a plus que le drapeau blanc. Or, dites-vous que pendant très longtemps, jusqu'à la Révolution, donc, ces armées françaises sont extrêmement puissantes. Et lorsque des ennemis veulent déclarer forfait, veulent dire, bah écoutez, on se rend, hein, vous êtes plus fort, on se rend. Ils prennent le drapeau des Français en face et ils agitent le drapeau des Français pour dire, voyez, nous agitons votre drapeau pour nous rendre. Eh bien, c'est comme ça qu'est venue cette habitude sur les champs de bataille d'agiter un pavillon blanc qui donc au départ était le drapeau de la monarchie française. Et c'est seulement, alors beaucoup plus tard, hein, c'est en 1899 que les conventions de La Haye vont définitivement adopter ce drapeau blanc comme signe de demande de cesser le feu de la part des belligérants. Voilà d'où ça vient à l'origine.